Que vous ayez décidé qu'il est l'heure, je crois qu'il est l'heure d'ailleurs. Merci bien. Bienvenue donc dans cette conférence sur le problème de l'existence de Dieu en face du mal et de la souffrance. Je réalise que nous pouvons avoir des gens dans bien des tas d'esprits différents ce soir. Il se peut que certains soient venus parce que vous êtes meurtri, vous avez souffert quelque chose, une injustice, une maladie, la perte d'un proche. Et il se peut que d'autres soient plus curieux intellectuellement ou que vous soyez à la recherche spirituellement. J'espère tout simplement que quelque part dans la conférence, vous allez entendre quelque chose qui vous aide, c'est le but. J'annonce d'emblée que tout ce que je vais vous dire ce soir provient de la Bible. Donc ce n'est pas mon but de vous donner mes belles pensées sur le sujet, ça ne vous arrangerait pas, mais mon devoir en tant que pasteur, c'est d'enseigner ce que la Bible dit et ce que l'Évangile nous apporte comme bonne nouvelle en face du mal et de la souffrance ce soir. Juste une ou deux définitions ce soir. Nous allons dire que le mal, c'est quoi? Parfois, il y a des mots, on sait ce que ça veut dire, mais on ne peut pas définir facilement. Et ce soir, nous allons tout simplement dire que le mal, c'est ce qui ne devait pas être. Et je vais aller plus profondément dans cette définition tout à l'heure. Et la souffrance, c'est la misère causée par le mal. D'accord? Le mal est ce qui ne devait pas être. Et la souffrance, c'est la misère causée par le mal, directement ou indirectement. En cours de route, au moins à un point, je vais dire quelque chose qui peut être difficile à entendre. Le message de l'évangile chrétien est un message radical. Et donc, parfois, nous sommes complètement étonnés par ce que le Christ va nous dire. Donc, je vous supplie, tout simplement, je vous prie d'écouter. Parce que vous savez que si nous n'acceptons comme étant vrai que des choses qui sont plaisantes, qui nous plaisent, nous avons un grand problème. Quand vous élevez les enfants, n'est-ce pas, vous qui êtes parents, si vous avez un enfant qui ne veut accepter comme vrai ou juste que ce qui lui plaît, vous savez que vous avez du boulot avec cet enfant. Mais nous tous sommes tous comme ça, n'est-ce pas? Et les choses difficiles dans l'écriture chrétienne, si nous sommes prêts à écouter, nous ouvre une fenêtre vraiment à l'autre côté, est un changement énorme de perspective et de vie. Maintenant, avant de commencer le contenu proprement dit, j'aimerais vous parler un peu plus personnellement. Quelqu'un m'a dit, et je crois avec raison, que il ne faut pas, David, que tu donne une conférence, tout ce contenu aux gens comme ça, des idées, des vérités, sans qu'ils sachent que si toi-même tu en sais quelque chose de la souffrance. Et donc, la première chose que je dirais, c'est que j'estime que je n'ai eu presque aucune souffrance dans ma vie comparée à beaucoup de gens dans ce monde. Ça, c'est la première chose dont je me rends compte. Beaucoup de gens que je connais. Mais je veux que vous sachiez que je suis comme vous, c'est-à-dire que quelque part en cours de route, moi aussi, j'ai été contacté par le mal et la souffrance de différentes formes. Mon papa était mon héros. Il était le héros de beaucoup de gens. À ses obsèques, la nuit avant Les gens devaient venir pour saluer la famille et ils ont dû appeler la police parce qu'il y avait tellement de gens, des centaines et des centaines de voitures qui mettaient en péril un axe important à côté. Et ils ont dit que les gens devaient attendre 4 heures dans la queue pour arriver à la famille pour les saluer. Mais mon père avait été athlète de haut niveau, ensuite prof de sport et coach avant de devenir psychologue scolaire. Et je me souviens en tant qu'enfant et jeune homme, le fait d'être émerveillé de mon papa parce qu'il était tellement fort. Un jour, il a dit, je vais te montrer comment faire des pompes. J'étais jeune et adolescent et moi, je croyais que maintenant j'avais un peu de force. Il s'est mis en bas et au lieu de faire des pompes comme ça, il a mis une main derrière et il a commencé à faire des pompes avec une main. Alors si vous n'avez jamais essayé, c'est assez incroyable. Mais vers l'âge de 70 ans, tout cela a changé. Mon père a eu la maladie de Charcot. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais quand je mentionne le mot, ceux qui savent tremblent. C'est une maladie neurologique qui dépérit les muscles au fil du temps et les personnes qui l'ont finissent par avoir seulement la capacité de battre une paupière. Et il meurt d'étranglement. C'est une saloperie. Je me souviens du jour où mon papa a soulevé tout son pantalon pour me montrer son mollet, cet homme qui avait été si grand et fort et musclé. Et ce mollet qui n'était presque rien vibrait et tremblait constamment, 24 heures sur 24, parce que ça, c'était le chaos neurologiquement dans son corps. Et son corps était en train de détruire ses muscles devant nos yeux. J'irai pas plus loin. Ma maman, 10 ans plus tard, on l'a diagnostiqué avec la maladie qui s'appelle Lewy Bodies. Lewy Bodies est une maladie que les médecins disent est une sorte de combinaison d'Alzheimer et Parkinson. Je ne suis pas d'accord, parce que c'est bien pire. La particularité de cette maladie, c'est que la personne perd non seulement la mémoire et tout le reste, sa tête, mais a des hallucinations cauchemardesques. Cauchemardesques? Voilà, merci. Et la dernière fois que j'étais avec ma maman, peu avant sa mort, j'ai passé des heures et des heures, jour après jour, à... Je vais y arriver. À la tenir dans mes bras, juste pour tenter de la consoler un tout petit peu, alors qu'elle était complètement alarmée et angoissée par ces hallucinations qu'elle n'arrivait pas à comprendre ou même expliquer parce qu'elle ne pouvait plus dire une phrase sensée. Donc nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, et vos histoires nous feraient couler des larmes sans doute. Nous avons tous rencontré de plusieurs manières la souffrance dans nos vies. Nous allons donc tenter de commencer, d'aborder ce sujet avec respect, avec compassion, avec modestie et essayer de voir ce que nous pouvons apprendre de la Bible. Le problème du mal inclut en fait 2 problèmes différents. Le premier problème, c'est un problème intellectuel et le deuxième, c'est un problème existentiel. Le problème intellectuel, c'est une sorte de puzzle à résoudre. Comment est-ce que dans un monde de tant de souffrances et d'injustices, un Dieu tout-puissant et parfaitement bon pourrait-il exister? Pourrait-il créer et maintenir un tel monde? Ça, c'est le problème intellectuel qui, plus que intellectuelle, parce que ces retombées sont immenses, immenses. Mais deuxièmement, le problème existentiel est plutôt une crise personnelle à affronter. Quand vous avez traversé des souffrances, la perte d'un proche, une maladie, une injustice grave, alors là, ce n'est pas juste des idées. C'est une vraie crise à affronter. Et donc, nous allons commencer dans la première moitié à peu près de cette conférence à considérer le problème intellectuel posé par le mal à la souffrance. Et ensuite, nous allons faire une pause de 10 minutes. Et dans la dernière partie, qui est la partie plus biblique, la première partie est un peu plus philosophique, nous allons, dans cette dernière partie, parler du problème existentiel. Ça vous va? Ok, on va faire comme ça. Donc, ce problème intellectuel, comme j'ai dit tout à l'heure, comment un Dieu parfaitement bon et tout-puissant peut-il créer et maintenir un monde où il y a tant de mal et de souffrance? Peut-il vraiment exister, étant donné de telles réalités? Et la première chose que nous devons faire, c'est de faire face vraiment avec une honnêteté brutale vis-à-vis du mal et de souffrance dans le monde. Donc, il faut que vous sachiez que d'une façon massive dans notre monde, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous dire, le mal existe en deux formes. Les philosophes nous disent qu'il y a deux sortes de maux, ou deux formes du mal. Le mal naturel, ça c'est les tremblements de terre, les maladies, des choses qui arrivent dans le monde physique. D'accord? Et il y a le mal moral, ça c'est le mensonge que vous avez subi, la trahison, le meurtre, le viol, ainsi de suite. Regardons d'abord le mal naturel. On n'a pas à regarder très loin. Je ne vais peut-être pas lire toute cette liste, mais vous vous rappelez en 2004, le tsunami en Asie, 230 000 morts en Asie, jusqu'en Afrique, jusqu'au Kenya. Le tremblement de terre en Haïti a tué plus de gens que cela. 400 000 morts dans ce pays et 1 million qui ont perdu leur logement. Mais tout cela, c'est rien comparé aux inondations en Chine en 1931, 3,7 millions de morts, ou bien pire encore, en 1917, une grippe a frappé le monde qui a tué au moins 50 millions de personnes dans le monde entier. Donc, nous vivons dans un monde où le mal naturel est juste immense. Le mal moral. Peut-être c'est les attentats en France qui nous viennent en tête en premier. Cette violence, cette injustice, cette haine qui s'est déchaînée. Mais on pense toujours à l'Holocauste, n'est-ce pas? 6 millions de juifs massacrés, sans parler d'autres groupes de personnes comme les handicapés que les nazis ont tués. Peut-être que vous saviez que dans les 4000 ans passés, il y a eu seulement 300 ans sans une guerre majeure. Ça, c'est pas le mal qui nous arrive dont nous sommes victimes, entre guillemets. Ça, c'est le mal que nous faisons les uns aux autres. Staline a imposé une famine en Ukraine à ses opposants dans les années 30, et entre 7 et 10 millions de personnes sont mortes à cause de la perfidie de cet homme. Mao Tse-tung a exécuté plus de 22 000 personnes chaque mois pendant les années 50. Le trafic humain, jusqu'à 4000 hommes, femmes et enfants aujourd'hui sont victimes de trafic humain, souvent pour le sexe ou pour des raisons économiques. Des gens qui sont carrément en esclavage. Parfois on entend des choses invraisemblables. Andrei Chikatilo, ce Russe qui a avoué en 92 qu'il avait tué 53 personnes. Le mal moral est omniprésent. Et ça, c'est les cas les plus graves. Si on parlait de du mensonge, de la tromperie, des relations brisées par l'égoïsme, par toutes sortes d'abus. Et nous pouvons bien comprendre pourquoi la Bible a deux livres entiers consacrés uniquement au problème du mal et de la souffrance, le livre de Job et le livre d'Ecclésiaste. Et dans le livre d'Ecclésiaste, nous lisons ceci. L'Ecclésiaste, qui est une sorte d'enseignant, il dit « J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Et j'ai trouvé que les morts qui sont déjà morts, plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. » C'est terrible qu'on soit obligé de parler ainsi. Mais vous pouvez voir que, quant à la Bible, elle n'édulcore pas le problème du mal dans le monde. Maintenant, nous voyons le mal présent, mais notre question intellectuelle, c'est est-ce que l'existence de tant de mal est-elle une preuve qu'on ne peut pas croire en l'existence de Dieu? Et quand moi j'ai dit Dieu ce soir, je pense uniquement au Dieu de la Bible. D'accord? Je vous joindrai en essayant de prouver que tout autre Dieu n'existe pas, parce que je crois qu'il y a une incohérence palpable dans les croyances non chrétiennes. C'est mon évaluation de la chose. D'accord. On le présente d'habitude comme ceci. Depuis Épicure, en passant par le philosophe David Hume, et jusqu'au philosophe athée du XXIe siècle, on maintient que, numéro un, le mal et la souffrance existent dans le monde. Deuxièmement, si Dieu était tout-puissant, il pourrait les empêcher. Troisièmement, si Dieu était parfaitement bon, il voudrait certainement les empêcher. Quatrièmement, donc, s'il y avait un Dieu tout-puissant et parfaitement bon, il n'y aurait donc ni mal ni souffrance dans le monde. Par conséquent, le Dieu tout-puissant et parfaitement bon n'existe pas. Ça, c'est donc l'argument athée, la logique athée. Voilà. Je me rattrape dans mes notes, excusez-moi. Dans cet argument, peut-être vous ne l'avez pas vu, mais les athées glissent là-dedans un présupposé qui admet que Dieu existe. Vous l'avez vu? Dans l'argument, l'athée veut affirmer que l'existence du mal est incompatible avec l'existence du Dieu tout bon et tout puissant. Mais pour ce faire, l'athée doit affirmer que le mal existe. Ce qui est mal en soi, pas juste les choses que je ne préfère pas, mais des choses qui sont mauvaises, que je les aime ou que je ne les aime pas. Vous voyez la différence? La torture des enfants est un mal en soi, quoi que nous pensions. Ok? Donc l'athée doit affirmer que le mal en soi existe, le mal absolu. Mais si Dieu existe, le mal ne peut pas exister et n'existe pas. Ni le mal naturel, ni le mal moral. Pourquoi? Il faut qu'on revienne à cette question. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est ce qui ne devait pas être. Mais si Dieu n'existe pas, il n'y a pas un « devait pas être ». Pardon, ça devait être... Oui, il n'y a pas de « devait être ». Il n'y a pas une manière dont les choses devaient être. Parce que le mal, c'est s'écarter du bien. Je vais vous lire une citation de C.S. Lewis, professeur athée à Oxford, qui est devenu chrétien, et vous allez voir, et puis on va utiliser une illustration pour rendre ça concrète. Lewis parlait de son séjour athée, il dit ceci: « Mon argument contre Dieu était que l'univers semblait si cruel et injuste, donc le mal, mais d'où est-ce que j'ai eu cette idée de juste et injuste? Un homme n'appelle pas une ligne tordue, à moins qu'il possède dans sa tête l'idée d'une ligne droite. » Vous êtes d'accord avec moi? À quoi étais-je en train de comparer l'univers quand je l'appelais injuste? C'est ça qui amène les philosophes Peter Kreff et Ronald Tasselli de dire « Le fait même de notre indignation face au mal indique que nous sommes en contact avec une norme de bonté par laquelle nous jugeons que ce monde est défectueux, qu'elle est en deçà de la cible. » Alors, si tout cela vous est passé au-dessus de la tête, parce que c'est un peu abstrait, je vais essayer de rendre ça concret. Supposons que vous construisez, vous faites construire une maison, bien sûr, selon un plan d'architecte, parce que vous êtes obligé en France de le faire comme ça. Et dans ce plan d'architecte, donc vous avez des indications, vous avez la maison telle qu'il devait être, n'est-ce pas? Ok. Et donc vous avez des normes qui existent avant que la maison existe, qui viennent d'une personne qui a une intention que la maison soit d'une certaine façon. Ok. Et dans ce plan, il est indiqué où on doit mettre un trou dans le mur pour placer des fenêtres, où on va mettre les portes, combien d'étages, la hauteur des étages, ainsi de suite. Donc un jour, vous arrivez au chantier, parce que vous voulez vérifier, comme tout bonne personne qui se fait construire au sud de la France, et vous arrivez et vous remarquez... Ce trou dans le mur où ils vont mettre la maison, non, c'est pas là. Vous dites aux ouvriers, c'est pas juste. Vous avez entendu le langage, c'est pas juste. Cette fenêtre doit être 2 mètres de ce mur-là. Pourquoi est-ce que vous êtes capable de dire que quelque chose est injuste dans la maison? Parce que il y a un devait être qui existe et contre lequel vous pouvez comparer et selon lequel vous pouvez dire « ça, c'est pas juste ». Mais maintenant, supposons que vous allez dans un autre pays en vacances, dans cette période, et avant votre arrivée, il y a eu un grand ouragan qui a soufflé certains quartiers, qui a détruit des maisons, qui a soulevé des toits, des fenêtres, des portes. Et vous allez visiter un des endroits où il y a les dégâts, par curiosité. Vous arrivez sur une colline où le vent a déposé un tas chaotique de morceaux de maisons, tous azimuts. Vous voyez des fenêtres, des portes, des machins partout. Vous ne pouvez pas arriver à ce tas et dire, non, c'est pas juste, cette fenêtre devait être 2 mètres plus loin. Vous ne pouvez pas dire devait être, parce que c'est un hasard. Ce qui vient d'un hasard n'a pas un plan, n'a pas un dessin auquel il doit correspondre. On a juste des faits, mais des faits qui ne riment à rien et qui n'ont besoin de rien rimer. Donc, nous sommes un peu dans un cas comme ça. Si le monde vient d'un hasard, nous n'avons que des faits. Un enfant meurt d'un cancer à 7 ans. On ne peut pas dire ça ne devait pas arriver. Quelle injustice, quelle tragédie. Ce n'est pas une tragédie. Ce n'est pas une injustice. Ce n'est pas un écart de quelque chose qui devait être, qui était prévu que les gens vivent tellement longtemps parce qu'il n'y a pas de Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de normes. Les choses sont et on ne peut pas aller plus loin. En fait, tous les grands philosophes athées vous diraient exactement ce que je viens de vous dire. Je vais les amener à la barre comme témoin. Nous allons prendre le cas du mal naturel d'abord. Ok? Est-ce que, bien sûr, si Dieu existe, ces maux dans la nature sont un écart, une déviation de la manière dont il a créé le monde au début. Quelque chose a détraqué la nature et le monde. Et la Bible dit, c'est l'homme, lorsqu'il s'est détourné de Dieu, il a attiré sur lui une rupture qui a affecté le monde naturel. Mais nous allons écouter les philosophes athées. Dans une entrevue avec le Daily Telegraph en 1992, Richard Dawkins, professeur athée à Oxford, qui a écrit des livres pour montrer que Dieu ne peut pas exister, a répondu à une question ainsi. Il dit, c'est Dawkins qui parle, « Supposez qu'un enfant meurt de cancer. Nous disons, pourquoi cet enfant doit-il mourir? Qu'a-t-il fait pour le mériter? » La réponse, c'est qu'il n'y a aucune raison pourquoi. Il n'y a aucune raison autre que toute une série d'accidents dans l'histoire qui ont abouti à la mort de cet enfant par le cancer. Inutile de demander pourquoi. Quand le journaliste faisant l'entrevue lui rappelle à Dawkins, mais c'est justement la question que les gens posent, Dawkins, la seule réponse de Dawkins était « ça c'est leur problème ». Parce que pour lui, en tant qu'athée, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de mal. Les choses sont un hasard qui ne rime à rien, qui ne s'écarte d'aucun bien. C'est juste comme ça. Prenons le cas du mal moral. Dans ce cas, en tant que chrétien, je peux affirmer qu'il y a un bien absolu, parce que ce bien vient du caractère du Dieu parfait lui-même, qu'il impose sur les hommes. D'accord ? Nous ne devons pas mentir parce que Dieu est vérité. Et il impose sa bonté, son caractère parfait sur ses créatures, pour leur bien. Mais l'athée dit, comme il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de normes. Qui m'impose quoi que ce soit ? Nous allons prendre le cas de Jean-Paul Sartre. Si j'ai exclu Dieu le Père, donc de l'univers, dans mon athéisme, il doit y avoir quelqu'un pour inventer des valeurs. Si Dieu n'existe pas, l'homme est par conséquent délaissé. Le problème moral provient du fait que les valeurs morales sont pour nous à la fois, nous, athées, à la fois incontournables et impossibles. Je suis convaincu que les valeurs morales sont à la fois impossibles et nécessaires. C'est-à-dire, quand on vient braquer la maison de Jean-Paul Sartre, il va à la police. Il dit, ça ne devait pas être. Quand on le trahit, quand on le calomnie à l'université où l'on enseigne, il est fâché. Tu ne devais pas parler comme ça à mon sujet. Donc, les valeurs morales, le bien et le mal réels sont nécessaires pour lui. Il ne peut pas les vivre sans. Mais en tant qu'athée, c'est complètement impossible. Et donc, l'aveu de Sartre, si vous comprenez bien, c'est que mon existentialisme athée, en fait, est un mensonge. J'essaie d'expliquer le monde en partant du présupposé que Dieu n'existe pas, mais quand je pars de ce présupposé, je finis toujours par une incohérence complète. La vie telle qu'elle est telle que je suis obligé de vivre, n'est pas la vie telle que normalement elle est selon la vision athée du monde. Je cite Sartre une fois de plus. L'existentialisme, au contraire, pense qu'il est très gênant que Dieu n'existe pas, car avec lui disparaît toute possibilité de trouver des valeurs, c'est-à-dire le bien et le mal. Il n'est écrit nulle part que le bien existe, qu'il faut être honnête, qu'il ne faut pas mentir, puisque précisément nous sommes sur un plan où il y a seulement les hommes. Dostoïevski avait écrit « Si Dieu n'existait pas, tout serait permis ». C'est là le point de départ de l'existentialisme. En effet, tout est permis si Dieu n'existe pas. Et par conséquent, l'âme est délaissée parce qu'il ne trouve ni en lui, ni hors de lui, une possibilité de s'accrocher. Vous savez que si l'athéisme a raison, nous regardons une situation et nous disons, dans certaines cultures, on aime inviter les voisins, être civil avec eux, et dans d'autres cultures, on aime parfois manger les voisins. Alors, qui sommes-nous pour dire que c'est injuste, que c'est un mal de manger ton voisin? Si Dieu n'existe pas, il n'y a rien pour trancher entre nos préférences et leurs préférences. C'est juste des préférences culturelles. Vous allez dire, mais la majorité des gens, qui dit que la majorité décide? La majorité? On ne peut pas faire comme ça, n'est-ce pas? La majorité ne peut pas imposer que la majorité décide. Et personne ne peut m'imposer une valeur quelconque si Dieu n'existe pas. Parce qu'il n'a aucune autorité. C'est juste sa volonté contre la mienne. Vous voyez dans quel problème nous sommes si Dieu n'existe pas. Donc il est clair que l'existence du mal nous signale en réalité que Dieu existe et que nous savons au fond de nous qu'il existe parce que de tout notre cœur, nous réagissons à l'injustice, n'est-ce pas, vous et moi, à l'injustice et à la tragédie. On ne dit jamais et on n'arrive pas à dire « Ah, ça c'est juste le hasard qui a tué ces 200 000 personnes. » C'est comme ça. Nous n'arrivons pas. Au fond de nous, nous savons que quelque chose ne va pas. Quand quelqu'un nous trompe, quand quelqu'un nous trahit, quand quelqu'un viole, nous savons que ce n'est pas une question de préférence. Toi, tu n'aimes pas le viol. Moi, j'aime bien violer. C'est des préférences. Nous savons qu'il y a un mal en soi. Parce qu'il y a une âme au-dessus de l'âme. Il y a quelqu'un là qui a mis dans notre cœur la réalité de la moralité. Donc, il est clair que l'existence du mal nous pointe vers Dieu. Et je reprends la logique des athées, mais je change le schéma maintenant. Dieu est entièrement bon, parfaitement bon. Dieu est tout-puissant. Le mal existe, mais le Dieu parfaitement bon et tout-puissant a une raison moralement suffisante pour le mal qu'il n'aime pas et ne cause pas, mais permet et ordonne. Ça, c'est l'enseignement de la Bible. Et philosophiquement, il n'y a aucune incohérence logique dans cette suite de pensées. Vous pouvez ne pas l'aimer, vous pouvez vouloir revendiquer que si Dieu a des raisons qui me les expliquent, là vous avez un problème parce que vous vous placez à la place de Dieu, quand vous revendiquez que Dieu doit vous expliquer. Et est-ce que vous pouvez même comprendre s'il vous explique ? Ça, c'est vraiment le problème. La Bible dit ceci, les choses cachées, parce qu'il y a des choses cachées, que le Dieu créateur qui est là ce soir et qui nous regarde, qui ne nous révèle pas. Et pour des raisons bannées sages. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et Dieu dit, c'est Dieu qui parle dans le prophète Ésaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est-à-dire, si je vous expliquais, vous n'arriveriez jamais à comprendre. Vous fonctionnez exactement comme Dieu. Voilà l'enfant de 4 ans qui doit subir une opération, une intervention chirurgicale très pénible. Son parent le fait asseoir, elle explique en les termes les plus enfantins et simples, mais il pose plein de questions, donc il est obligé de lui dire un peu ce qu'il en est. Oui, c'est un médecin. Mais comment est-ce qu'il va arriver là-dedans? Bon, il a un couteau très très tranchant, mais tu vas être endormi, tu vas pas sortir. Et tu expliques. Et l'enfant dit, mais maman, tu peux empêcher le docteur de me couper, n'est-ce pas? Oui, je peux l'empêcher. Tu m'aimes et tu ne veux pas que j'aie mal. Oui, je t'aime. Si tu es capable d'empêcher, et si tu m'aimes vraiment, donc je ne vais pas avoir une opération parce que tu l'empêcheras. Sauf si le parent est bon, le parent peut arrêter l'opération, mais le parent a des raisons moralement suffisantes pour le mal. Le parent explique ce qu'il peut, mais il ne peut pas tout expliquer à un enfant de 4 ans. Il ne peut pas expliquer pourquoi il faut le mal dans cette situation pour le guérir. Et il finit par dire, mon enfant, tu me connais, tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Ne peux-tu pas faire confiance à moi lorsque tu ne comprends pas? Fais confiance à moi lorsque tu ne comprends pas tout. Et Dieu nous dit ça dans exactement la même chose. Il y a des choses que Dieu permet dans ce monde et de manière tout sage, tout bon, mais nous sommes incapables de sonder toutes les voies de Dieu. Nous allons nous arrêter là pour 10 minutes. Vous allez souffler un moment et quand on revient, on va parler du problème existentiel posé par le mal et la souffrance. Peut-être on va juste. Merci bien. Donc, ce serait bien et pas mal si nous pouvions maintenant mettre le sujet de la première partie de côté et maintenant ouvrir notre cœur et notre esprit à la deuxième partie. Le problème existentiel posé par le mal et la souffrance. Nous sommes donc confrontés au besoin de faire face au mal. Et le mal en nous, l'égoïsme, l'orgueil, les mensonges que que nous disons aux autres, ma femme peut vous faire une liste de mes péchés, de mes besoins fréquents de revenir, lui demander pardon. Et c'est un sujet de lamentation pour moi et je crois pour nous tous. Donc, le problème existentiel. Dans son amour pour nous, Dieu nous a apporté une solution au mal et à la souffrance, à la fois sur le plan objectif et sur le plan subjectif. Si vous êtes là ce soir et vous souffrez, vous êtes meurtri et vous ne savez pas comment répondre au mal, à la souffrance que vous avez, la première chose, c'est que le Dieu qui est là et qui nous a fait a agi parce que il s'occupe de vous et de votre souffrance. Donc, quand je parle sur le plan subjectif, ça veut dire que je ne peux pas et vous ne pouvez pas faire face au mal, aux injustices, aux souffrances, si votre perspective sur le mal et sur la souffrance est erronée. Je vous donne juste un exemple. Si vous pensez que ce monde et cette vie, c'est tout ce qu'il y a, vous n'allez jamais pouvoir faire face à des grands maux dans cette vie. Parce que quand vous êtes amené à un mal qui vous détruit cette vie, si cette vie est tout, vous êtes fichu. Mais heureusement, ce n'est pas tout. C'est un clin d'œil, cette vie. La Bible dit que l'homme, vous et moi, nous avons été faits avec une âme immortelle. Que ce monde est extrêmement provisoire et éphémère. Il y a donc un espoir au-delà si vous êtes dans la souffrance dans cette vie. Mais nous devons régler nos perspectives selon la vérité afin d'affronter le mal. Et je voudrais vous dire quatre choses que la Bible nous dit au sujet du mal et la manière dont Dieu a résolu le problème du mal en envoyant son Fils Jésus-Christ dans le monde. Je vais juste dire un mot au sujet de Jésus. Quand je parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je ne sais pas si vous êtes tous, vous avez tous eu un contact avec la Bible, mais le terme Fils de Dieu ne signifie pas que Dieu a eu des rapports sexuels avec une femme. Fils de Dieu, ça signifie que le Dieu qui est là, il est trois personnes depuis toute éternité. Depuis toujours, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il se révèle comme cela, nous ne l'aurions jamais imaginé, personne ne pouvait jamais inventer une telle chose, et nous n'arrivons pas à le comprendre complètement. Si nous pouvions comprendre Dieu complètement, nous aurions une pensée aussi infinie que Dieu. Dieu est transcendant, il est autre, il est autre. Et donc, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Pas trois dieux, un seul Dieu, un seul être, mais qui subsiste depuis toujours en trois personnes distinctes, qui ne font qu'un seul Dieu. Ça veut dire qu'il y a toujours eu de l'amour dans l'univers, même avant que Dieu crée le monde, parce qu'il y a eu trois personnes. Certaines religions croient dans un Dieu moniste, une seule personne. Il est là avant de créer le monde et il ne peut pas aimer parce qu'il n'y a personne pour aimer. N'est-ce pas? C'est un problème, n'est-ce pas? Mais le Dieu qui est vraiment là, il est amour. Il a toujours été dans une relation d'amour ineffable entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous a créés afin de nous amener dans cette relation d'amour. Ok, la première vérité. Par sa venue, son enseignement, sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a révélé clairement aux hommes, une fois pour toutes, que Dieu n'est pas la cause du mal, mais la cible du mal. La Bible dit que, au commencement, dans l'éternité, était la parole. C'est un terme pour Jésus. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair, a pris sur lui un corps humain, une nature humaine, tout en restant Dieu. Il cache la gloire de sa divinité, et il vit comme un simple homme. Afin, il descend dans notre galère, afin de nous tirer de là. Mais, quand Jésus vient, une chose qui devient claire, c'est que Dieu n'est pas la cause du mal, mais la cible du mal. Nous allons voir comment. Qu'est-ce qui arrive quand le Dieu de l'univers prend une forme dans laquelle nous pouvons le saisir? Nous pouvons mettre la main sur lui. Qu'est-ce qui lui arrive? Il vient dans le monde. Il fait des miracles, il guérit, il bénit, il ne fait que le bien, et même ses adversaires doivent avouer que personne n'a jamais parlé comme lui. Ses accusateurs ne peuvent rien dire de tort en lui. Et pourtant, la Bible dit qu'il a été méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Tiens, ça c'est bien parce que c'est notre conférence ce soir, la souffrance. Habitué à la souffrance. C'était sa vie. Le mal tape sur lui constamment. Depuis sa naissance, quand on lui refuse une place à ses parents, une place pour faire naître cet enfant, il n'y a pas de place pour eux. Il doit naître parmi les animaux jusqu'à la croix du calvaire quand on le crucifie. semblable à celui dont on détourne le visage. Il est rejeté par les membres de sa famille, ses frères, et par sa ville qui, à un moment donné, veulent le précipiter d'une falaise pour le tuer. Il est traqué par les autorités religieuses de son peuple qui veulent aussi le faire périr, qui sont constamment prêts à essayer de le piéger, de le mettre en tort d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'il vit. Il devient la cible, bizarrement, de toutes sortes de mal, alors qu'il ne fait que le bien. Il est trahi par un de ses amis intimes. Judas, c'est avec un baiser que tu trahis le Fils de l'homme, dit-il dans le jardin. Il est renié par le peuple qui l'avait fait tant de bien. Les Juifs le rejettent alors qu'il est leur Messie et le crucifient sur une croix romaine. Il est arrêté, condamné par un procès combien injuste, 3 procès dans la même soirée, dans la même nuit, toute la soirée, des mensonges, des calomnies, des fausses procédures, même dans le procès, selon la loi romaine et selon la loi juive. Il est battu par les soldats qui ont la charge de le garder, qui crachent sur lui, qui bandent ses yeux et qui le tape et qui lui demande « Si tu es prophète, dis qui t'a tapé. » Il est fouetté à moitié mort. Il n'arrive presque pas à la croix, à la crucifixion romaine. Son dos est complètement ouvert par les fouets romains qui ont des petites pierres et des morceaux de verre enlacés dans le cuir du fouet, et on le frappe et on le frappe jusqu'à ouvrir son dos complètement. Il est crucifié, on le cloue sur une croix dans ses mains et dans ses pieds au milieu des moqueries des spectateurs. Pourquoi est-ce que Dieu se fait homme pour que une telle chose lui arrive? Il y a beaucoup de raisons, on va voir certaines raisons pour ce soir, mais une raison un peu secondaire, mais importante pour nous ce soir, c'est que quand Jésus vient ici, le mal est démasqué. Si quelqu'un a jamais pensé que Dieu était la cause du mal, on voit lorsqu'il se pointe visiblement que lui, il est plus que tous, plutôt la cible du mal. Le mal est le principe anti-Dieu. Ça, c'est sa définition. Le péché est ce qui est contre sa volonté et contre sa loi. Et donc, visiblement, pour qu'il puisse y avoir aucun doute, Christ vient dans le monde et on le voit faisant que le bien et subissant le mal par choix. Il vient volontairement. Deuxièmement, par sa venue, son enseignement, sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a révélé clairement aux hommes, une fois pour toutes, que nous tous, les hommes, même nous dans cette salle, nous sommes responsables du mal et des souffrances humaines. Nous lisons en l'évangile de Luc, chapitre 13. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter à Jésus, ce qui était arrivé à des Galiléens. La Galilée, c'est la partie nord d'Israël. Arrivé à des Galiléens dont Pilate, le gouverneur romain de l'époque, en charge de cette région du monde, de l'Empire romain, les Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Maintenant, je vous explique avant d'aller plus loin. Je cache le passage. Apparemment, il y avait des gens que Pilate n'aimait pas et qu'il estimait être ses adversaires. il les a rattrapés un jour dans le temple même de Jérusalem, et il les a fait massacrer là dans le temple, au milieu d'un culte, pour ainsi dire, au milieu d'un rituel religieux, de sorte que leur sang a coulé, était mêlé avec le sang de leur sacrifice qu'ils venaient d'offrir à Dieu. Terrible! Un mal moral terrible. Les gens viennent raconter ça à Jésus parce qu'ils ont quelque chose dans la tête. Et regardez bien que le texte précise Galiléen. Parce que nous sommes à Jérusalem, en ce moment, ça arrive à Jérusalem, et les Juifs de Jérusalem regardent les gens au nord du pays, la Galilée, comme des gens qui ne sont pas fidèles, qui ne sont pas assez fondamentalistes comme eux au sud. On le sait depuis les écrits juifs de l'époque, nous le savons, les écrits des rabbins, etc. Et donc, probablement, ces personnes ont dans leur tête, « Ah, si ça est arrivé à ces Galiléens qui sont venus adorer ici à Jérusalem, c'est qu'ils ont dû être des gens vraiment particulièrement méchants et coupables pour que Dieu permette qu'ils subissent un tel sort. » Mais regardez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Maintenant, Jésus va ajouter un deuxième cas de mal, mais pas mal moral, mais mal naturel, pour compléter le portrait. Et ça arrive non pas au nord, mais au sud, vers les gens les plus fondamentalistes. Intéressant. Alors, donc, ou bien, dit Jésus, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Essayons de comprendre, parce que Jésus explique une raison pour laquelle Dieu permet dans ce monde le mal moral et le mal naturel. D'abord, Jésus écarte l'idée que si vous avez subi une calamité extraordinairement brutale ou difficile, ça veut dire que vous êtes plus mauvais que les autres gens. N'est-ce pas? Il dit deux fois, pensez-vous qu'ils sont plus coupables que les autres? Non, je vous dis. D'accord? Donc, quand quelque chose de terrible agit, ça doit nous pousser à dire quelque chose, mais ce que nous ne devons pas dire, c'est « Ah, ils doivent être pires que les autres. » Qu'est-ce que ça doit nous pousser à dire selon Jésus? Ça doit nous pousser à dire « Cette tour aurait dû déjà tomber sur moi. » C'est non pas « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que ça arrive dans le monde ?» Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? C'est en fait justement le contraire. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait au bon Dieu? Et qu'est-ce qu'il est étonnant que moins de gens meurent et souffrent dans un monde où nous refusons, les hommes autour de nous, peut-être ici, nous refusons de nous repentir, nous incliner devant le Dieu qui est là et vivre comme il nous incombe, comme il nous commande de vivre. Jésus explique, écoutez bien, que quand il y a une catastrophe extraordinaire, mal moral ou mal naturel, c'est un signal de Dieu, mais pas un signal au sujet de certains gens qui sont mauvais, c'est un signal à nous tous que c'est ça que vous auriez dû subir. Déjà, repentez-vous pour ne pas y aller. Je vous ai dit que l'évangile est radical et que la Bible dit, Dieu, le Dieu qui est là, nous dit que nous sommes tous dans ce cas et que nous avons besoin de nous remettre en règle avec le Dieu qui est là. Alors peut-être vous dites, mais je n'ai tué personne, je n'ai volé de personne. Je vous recommande vivement de lire la Bible, lire les évangiles. On faisait une étude biblique dans notre maison à Grenoble quand nous vivions là-bas et une des dames qui avait été athée, qui venait toutes les deux semaines, elle a dit la première année, mais moi j'aime pas tout ce discours au sujet du péché, que nous sommes pécheurs. Moi je suis pas pécheresse, je n'ai jamais fait de mal à quiconque. 2 ans plus tard, après avoir étudié la Bible, elle a dit à tout le monde dans cette étude, je ne fais que pécher tous les jours. Quel était le changement? Elle se voyait dans un miroir très inadéquat. Elle a commencé à lire ce que Dieu demande vraiment qu'elle soit. Et une fois qu'elle a vu de près, elle a dit, oh là là, que je suis vraiment rebelle contre ce Dieu. Je vais juste vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que le péché. Dans ce pays, et dans tous les pays que je connais, quand un mal arrive à quelqu'un qui ne s'est pas encore repenti, souvent nous entendons ceci. Pourquoi est-ce que Dieu m'a rendu malade s'il est là? Pourquoi est-ce que je suis au bord au seuil de la mort? Et ces personnes parfois revendiquent d'avoir de nouveau la santé ou un prolongement de vie. Et je demande une chose, je pose une question. Pourquoi voulez-vous un prolongement de vie? Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour que vous puissiez vivre pour ce Dieu? Le servir, le connaître, chercher sa face comme il demande? Et savoir la raison pour laquelle vous avez été mis là? Ou bien est-ce que c'est simplement je veux vivre plus longtemps afin de continuer à vivre sans Dieu? De continuer ma vie en l'ignorant complètement. Et pour la plupart des gens, c'est ça. Ils revendiquent à le Dieu qui n'est pas là de leur prolonger la vie pour continuer à renier son existence. Intéressant, n'est-ce pas? C'est pour cela que Jésus dit, vous tous, nous avons tous cette attitude anti-Dieu. Nous ne voulons pas le vrai Dieu de la Bible, le vrai Dieu qui est venu montrer son nom et son visage en Jésus-Christ. Nous voulons un Dieu, nous pouvons créer et moduler comme nous le voulons. Mais Dieu est là. Il est lumière et en lui pas de ténèbres. Il est plein d'amour et plein de bonté. Et il est pur. Et nous avons besoin de faire face au fait que les catastrophes dans ce monde, c'est un Dieu bon qui est en train de faire un cri d'alarme à nous tous par un échantillon qui se perd en nous disant « Réveillez-vous, repentez-vous !» Dieu nous chuchote dans nos plaisirs et il nous crie dans nos souffrances parce que nous sommes tellement têtus que nous n'écoutons pas autrement. Ça, c'est la deuxième vérité. La troisième vérité, c'est par sa venue, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a révélé clairement aux hommes, une fois pour toutes, que malgré notre culpabilité, fait que nous sommes tous rebelles, comme je viens de vous dire, malgré notre responsabilité pour les souffrances du monde, parce que c'est nous qui avons attiré le mal dans le monde en nous détournant de Dieu, Dieu a une immense compassion envers nous dans notre mal et dans nos souffrances. Est-ce que vous le saviez? J'ai dit un jour à un des maires d'une des villages voisins, j'étais dans son bureau et il m'a dit, qu'il avait mené une vie, oui, une vie pas très estimable. Et que pour lui, la foi, comme il avait vécu des choses qu'il ne peut même pas me raconter, la foi ne doit pas être pour lui. Et j'ai dit, est-ce que vous savez que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Jésus a dit, ce n'est pas le bien portant qui a besoin du médecin, mais le malade. Et donc, Jésus, en venant et en allant vers les hommes mauvais, les femmes mauvaises, comme nous le sommes, il montre que Dieu a une grande compassion. Je vais juste vous montrer la compassion de Jésus en face du mal dans un incident. Je pourrais vous en montrer beaucoup. Où Jésus sanglote sur Jérusalem. Mais ici, en Jean 11, nous avons la mort d'un de ses amis. Il y avait un malade Lazare de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. C'est bizarre, n'est-ce pas? Lui qui peut guérir la maladie, au lieu d'aller vers lui, il reste. Parce qu'il va laisser mourir Lazare. Parce qu'il veut lui donner plus qu'une guérison. Il veut lui donner une résurrection. Puis il dit à un disciple, retournons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà, pardon, je n'ai pas tapé le bon mot, mort depuis 4 jours. Oh oui, non, c'est bien. Depuis 4 jours dans le tombeau. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Vous pouvez imaginer la scène lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Parce que les Juifs croyaient dans une résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Il vivra quand même il sera mort spirituellement, il vivra et vivra éternellement et revivra un jour physiquement. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est-à-dire, une fois que tu deviens chrétien, même si tu meurs physiquement, tu ne peux pas mourir spirituellement. C'est incroyable, ça. Jésus nous apporte. Oui, je vais dire tout à l'heure. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appelait Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, on a tous ces détails hein, de témoins oculaires. Quand c'est un témoin oculaire, tu sais toujours parce que tous ces détails, pourquoi nous dire qu'elle le dit secrètement? Le maître est ici, il t'appelle. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Tristesse, une famille vraiment soudée, le frère est parti. Elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle dit la même chose que la sœur. C'est pas étonnant. C'est la première pensée qui leur vient. Quand Jésus vit qu'elle pleurait, elle est à ses pieds en train de pleurer, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Nous voyons que quand Dieu se fait visible dans une forme humaine et il rencontre le mal humain, la souffrance, et le deuil, il frémit. Et le mot est très fort. C'est le même mot qu'on utilise en grec pour un cheval qui frémit. Et probablement, ça connote la colère. Jésus est en colère avec la mort, avec le mal, avec la souffrance. Et il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Vous voulez savoir comment Dieu est vis-à-vis de nos souffrances? Jésus, un homme adulte qui n'a pas honte devant tout le monde de sangloter. Les Juifs dirent donc, voyez comment il l'aimait. Voilà ce que Dieu veut que nous sachions. Est-ce que vous saviez qu'il y a un Dieu qui aime, qui vous aime tant? Il vient, pour que ce soit clair. C'est formidable. Depuis que je l'ai découvert, ma vie n'a jamais été le même, peut-être pour vous aussi. Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ?» Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Je me demande, spéculation, excusez-moi, si cette fois, c'est pas à cause, il frémit à cause de l'incrédulité des gens. Ils ne savent simplement pas qui je suis. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est il aurait pu l'empêcher de mourir. Oh, ne savent-ils pas que d'un mot, je peux juste le ressusciter de la mort? Oh, combien ils pensent d'une manière petite en me considérant. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez-le, la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il pue déjà, car c'est le quatrième jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas voir combien ma gloire est transcendante. Et incompréhensible. Crois seulement. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais, tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent là, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes toujours, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Nous comprenons par la venue de Christ en tant qu'âme que Dieu entre avec empathie dans nos souffrances. Il n'est pas la cause, mais la cible de souffrance, et il entre dans nos souffrances afin de s'occuper de nous. Dernièrement, ça va, vous êtes toujours avec moi? Il fait tard, je termine. Le plus important, par sa mort et sa résurrection, Jésus a accompli une fois pour toutes une solution définitive au mal et à la souffrance humaine. Et il vous offre, cette solution dans son amour. Et moi, je vous parle maintenant d'une solution définitive et ultime au mal, tout le mal dans ce monde et toute la souffrance. Vous allez voir. On revient vers cette parole que Jésus a dit à Marthe. Rappelez-vous, il a dit, devant le mal ultime, parce que c'est quoi le mal ultime? C'est la mort. Parce que vous savez que quand on meurt, on perd tout. Tant qu'il y a de la vie, il y a un peu d'espoir, de guérison, de changement, etc. Mais la mort, c'est le mal ultime. Et devant la mort, Jésus dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Récemment, j'ai eu à visiter avec une personne ici, pendant des années, une dame dans une ville avoisinante qui avait le cancer. Plusieurs cancers. Les médecins étaient étonnés de la voir durer aussi longtemps. On est allé chez elle souvent, une dame intéressante, vivante, toujours du monde dans cette maison. Pas simplement à cause de la maladie, ça avait toujours été comme ça. Elle attirait des gens. Elle était serviable, vivace. Mais la voilà qui souffrait incroyablement avec cette maladie. Et à un moment donné, elle est devenue que des os et de la peau, franchement. C'était difficile à aller la voir à ce moment-là. Juste à la voir, c'était trop dur. Et un jour, j'ai demandé si tout le monde pouvait gentiment partir du salon, parce que je voulais un moment avec cette dame. Je savais que ces jours étaient comptés, mais comptés. Et j'avais raison parce qu'elle est morte quelques semaines plus tard. Quel espoir peut-on donner à une femme qui va bientôt certainement tout perdre dans ce monde et cette vie? Si Dieu n'existe pas, si ce monde c'est tout ce qu'il y a, on est devant un mal tellement grand, on ne peut que s'incliner et céder. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire à cette dame? Ses amis athées venaient la consoler comme ils pouvaient, mais ils n'avaient aucune solution à ce mal, zéro. J'ai sorti ma Bible, je lui ai lu ce passage. J'ai dit Marie, c'est pas son nom, mais je vais utiliser ce nom. J'ai dit Marie, tu dois savoir que bientôt, cette vie ici pour toi va se terminer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, une vraie bonne nouvelle. Dieu lui-même est devenu homme. Et il est mort, il est entré dans la mort afin de vaincre la mort. Afin qu'il puisse vous donner la résurrection à l'autre côté de cette vie de mal et de souffrance. Une vie éternelle, sans souffrance, sans mort, un autre mode d'existence où tu seras indemne de la souffrance, dans une félicité complète avec Dieu, baigné dans son amour, si tu reviens tout simplement à lui, si tu te repens, parce qu'elle n'était pas chrétienne, si tu reviens à ton Dieu qui t'aime et t'appelle, être désolé pour le fait que tu ne l'as pas cherché, tu n'as pas voulu le connaître, mais il t'appelle et il dit, maintenant, viens. Mes bras sont ouverts. Et je lui ai dit, regarde ce que Jésus dit. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, il vivra. Vous demandez à quoi ressemble donc cette vie à l'autre côté qui est au-dessus de la mort. Ben, le dernier livre de la Bible, l'apôtre Jean a eu une vision un jour, exilé sur une île, voilà ce qu'il nous explique. « Je vis un jour, dit-il, j'ai vu, un nouveau ciel et une nouvelle terre, parce que Dieu lui a donné une vision surnaturelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il est en train de voir l'avenir. Et la mer n'était plus. » Bizarre ce détail. « J'entendis du trône de Dieu, parce qu'il voit le trône de Dieu, une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Ce que je viens de vous dire est certain et vrai. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ah, mais est-ce que le mal moral va disparaître? Regarde. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, l'occultisme, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant du feu et du soufre. Cela, c'est la seconde mort. Pas de mal moral dans ce nouveau monde. La toute dernière question, si vous vous demandez pourquoi fallait-il que Jésus vienne sur terre et meure sur la croix pour qu'il y ait cette possibilité de résurrection? Quel est le lien entre Jésus qui meurt et vous qui pouvez, par lui, ressusciter à une vie éternelle? Alors, nous lisons dans Ésaïe 53 ceci, au sujet de Jésus. Il était blessé, regardez tous les mots qui signifient le mal, qui subit le mal. Il était blessé pour nos péchés, donc puni comme si c'était lui qui avait fait mes fautes. Parce que Dieu punit le mal. Il ne peut pas juste dire, ah, c'est pas grave. Brisé pour nos iniquités. C'est ça l'explication de la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, ses souffrances, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et pas la voie de Dieu. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Quel amour! Quel amour! Nous allons tous comme nous voulons loin de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il fait retomber sur son Fils le châtiment que nous méritons. Et il nous appelle, venez. Venez, revenez à moi. Je vous explique par une petite illustration pour terminer. Imaginez que vous avez un enfant qui a malheureusement s'est impliqué avec une très mauvaise bande et il a fini par voler une grande somme d'argent d'une personne riche, 200 000 euros. Et il a gaspillé, perdu tout cet argent après dans les casinos. Il est arrêté un jour, amené devant la justice pour son vol. Et il se trouve que vous-même, vous êtes le juge de ce tribunal. Est-ce que vous pouvez délivrer ce fils, cet enfant ? Simplement par la puissance et le pouvoir que vous avez. Moi, je suis le juge. Vous, ça va, allez, vous êtes libre. Vous ne pouvez pas le délivrer du châtiment et du mal, de la souffrance qu'il mérite, la prison, devoir payer l'amende et rembourser cet argent, tout cela. Vous ne pouvez pas le délivrer de tout ça. Qui va venir sur lui simplement par l'autorité. Même si vous aviez des amis qui pouvaient venir avec des kalachnikovs et dire « Laissez aller le jeune homme !» Vous ne pouvez pas délivrer d'une manière juste une personne sous le coup d'une peine légale. Et Dieu est juste. Il ne peut pas nous ressusciter simplement par le pouvoir divin. Simplement parce qu'il est fort. Parce que ce serait une violation de la loi comme tu violerais la loi si tu es juge et si tu délivres simplement par ton pouvoir. N'est-ce pas? Si tu passes à côté de la justice, si la peine n'est pas satisfaite et tu délivres sans que la peine soit satisfaite, toi-même tu violes la loi. Mais il y a une manière de délivrer cet enfant. Tu enlèves ta robe de juge, tu descends, tu vas vers la famille qui a été volée et tu dis d'une sincérité mais complète, je suis tellement, tellement désolé pour ce qui vous est arrivé. Et à part les 200 000 que mon fils vous doit, et l'amende qui doit payer à la justice et tout le reste, est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que cela vous a coûté, que je peux régler? Donnez-moi un chiffre. La famille vous dit, oui, il y a ces autres choses qui nous sont tombées dessus à cause de ça, et vous sortez votre chéquier, vous allez vers le clerc d'huissier, et vous écrivez un chèque pour les 200 000, et le plus, et l'amende que demande la justice de l'État français, et tout. Et vous réglez complètement la peine légale de cet enfant. Vous reprenez votre robe. Et maintenant, la famille est satisfaite. La justice a été faite. Tout ce qui lui a été fait comme mal a été maintenant réglé. La famille est remise dans la bonne position. Et vous voyez que votre fils, quand vous retournez vers l'auditoire, vous remarquez que votre fils, ému par votre amour, va vers la famille lui-même pour dire « Je suis vraiment désolé ». Maintenant, comment est-ce que vous auriez délivré votre fils ? Par la souffrance, par la perte, votre perte personnelle de plus de 200 000 euros, vous avez délivré votre enfant de la souffrance et du mal qu'il a attiré sur lui-même. Et c'est ça que ce verset nous enseigne. Ce n'est pas par le pouvoir divin, ce n'est pas par l'autorité, c'est par la souffrance que Dieu nous délivre. C'est en perdant. Et il ne perd pas 200 000 euros, il perd sa vie sur une croix, sur la peine de la colère de Dieu qui le frappe comme si c'était lui qui avait fait tous nos mensonges. Et tous nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures, non pas par son pouvoir divin, mais c'est par ses meurtrissures sur la croix que nous sommes guéris, parce que ces meurtrissures, c'est les meurtrissures que nous aurions dû subir à cause de nos péchés. Ainsi, Jésus-Christ peut dire « Je suis » parce que je suis mort à votre place, parce que j'ai tout payé. Je suis, et moi seul, je suis la résurrection et la vie. Je peux vous délivrer de la mort, le mal ultime. Donc, une très bonne nouvelle, parce que nous tous ici, certains plutôt que d'autres, vont faire face à ce mal ultime. Et si nous connaissons le Christ, si nous nous tournons vers lui pour le suivre et pour faire confiance à lui et ce qu'il a fait sur la croix pour nous, nous aussi, nous ferons partie de ceux dont il a dit « Si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il vivra. » Je pense que nous allons arrêter comme ça, et ne pas... si vous avez vraiment une question brûlante, venez personnellement me parler de ça en ce moment. Je préfère ne pas soumettre de telles choses sacrées à une sorte de débat, mais il vaut mieux que nous arrêtions là et que nous soyons chacun mis devant cet appel et cette bonne nouvelle par laquelle Dieu nous dit « Repentez-vous ». Pour ne pas périr, croyez en moi pour vivre, même si vous mourrez. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Et si vous avez envie, je vais laisser des cartes de visite sur la table. Si vous avez envie de me contacter et d'en parler plus, je suis vraiment à votre disposition. Bonne soirée à tous et restez pour la collation.